Le 39e dossier de la Revue Durable nous propose de nous réconcilier avec le vivant en faisant l'éloge de la biodiversité commune. Jacques Mirenovitch, rédacteur en chef de la Revue Durable, nous explique ce que l'on entend par biodiversité commune.
Ah ben, y a rien de plus simple, c'est la biodiversité qu'on voit tous les jours, qui nous est proche. C'est celle qu'on voit en particulier en ville, dans les jardins et même sur les balcons. Hein. C'est le rouge-gorge, c'est le merle, c'est les papillons qui voltigent si on n'est pas trop en centre-ville. C'est les herbes folles, c'est les mousses entre les pavés. C'est toute la biodiversité qui nous entoure, les arbres les plus communs. Ça s'oppose, si on peut dire, à la biodiversité exceptionnelle ou certaines espèces emblématiques. Le but, c'est de souligner que ce ne sont plus quelques espèces, ou même si les listes sont longues, mais des listes d'espèces emblématiques sur liste rouge qui sont en danger d'extinction. Et en fait, l'ensemble des écosystèmes, c'est toute la biodiversité, y compris la biodiversité la plus ordinaire, qui est sur la sellette aujourd'hui.
Quelques mots peut-être sur Romain Gary, sous l'égide duquel est placé ce dossier.
La Revue Durable a tendance à avoir des dossiers qui sont ancrés dans le très très factuel. Hein. Donc il y a des données, des chiffres, tout est blindé, vérifié. Là, le but, c'était d'avoir un regard littéraire, poétique, extérieur, très sensible. En l'occurrence, celui de Romain Gary, qui a écrit dans les années 50 un roman extraordinaire qui s'appelle Les Racines du Ciel, qui avait évidemment beaucoup d'avance, puisque qu'il tirait la sonnette d'alarme de façon extrêmement aiguë, forte, à propos des éléphants. Mais on sent bien que les éléphants sont un symbole pour la nature, pour la fragilité de la nature, des animaux. Et on a disséminé dans tout ce numéro des citations qui sont toutes plus enrichissantes et qui prêtent toutes à réfléchir, de tirer de ce roman.
La biodiversité, c'est l'affaire de tous, tout simplement parce que nous la côtoyons au quotidien.
Oui, il y a un lien direct. Si on dit que c'est toute la biodiversité qu'il faut préserver, ça veut dire que ça n'est plus la mission de professionnels qui ont une formation spécifique pour s'occuper de telle ou telle espèce ou tel ou tel écosystème, que ce soit à l'intérieur d'un parc ou d'un périmètre bien délimité. Par exemple, on peut penser à la Camargue. Partout, tout le monde a la possibilité, en fait. Et on montre en particulier que si nous avons la chance d'avoir un jardin, bon, c'est mon cas, j'ai un petit jardin derrière la maison, et bien si on laisse des herbes folles, si on laisse des ronces, si on laisse des orties, si on ne passe pas son temps à tondre la pelouse, eh bien ça favorise la biodiversité. Alors ça a été montré notamment dans le cadre d'une expérience de science participative que chaque particulier a la possibilité, de par la manière dont il traite son périmètre de verdure, de favoriser les papillons. Quand on favorise une ou plusieurs espèces, ça veut dire qu'en général, on en favorise tout un tas. Donc, c'est très clairement démontré maintenant par des recherches. La chose qui est moins facile à faire, c'est quand on se trouve vraiment en centre-ville, à ce moment-là, l'impact sur les papillons, il est moindre. Donc, plus on est à la périphérie des villes, plus l'impact de la manière dont on gère son jardin aura un impact sur les papillons.
Vous parliez à l'instant de la science participative. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Concrètement, les citoyens s'impliquent de plus en plus et bénévolement la plupart du temps?
Oui, ça implique du bénévolat. Mais c'est très intéressant parce que donc un certain nombre de laboratoires de recherche sollicitent la participation citoyenne bénévole pour recueillir des données. Alors ça peut être maintenant sur tout un tas d'espèces, les oiseaux, les papillons, les bourdons et autres insectes. Et on leur demande de faire des observations pendant 10, 15 minutes, 20 minutes éventuellement, de façon régulière, de rendre compte de ce qu'ils ont observé. Et toutes ces données, plus elles s'accumulent, plus elles sont nombreuses, plus elles permettent aux chercheurs de tirer des conséquences. Et donc là, je vous ai cité cet exemple sur l'impact de la gestion naturelle des jardins. Ces mêmes recherches, par exemple, ont montré que on trouve de moins en moins de papillons plus on va dans le centre-ville. Et on peut montrer quelles espèces sont plus ou moins tolérantes au centre-ville. Donc ça permet d'avoir des données sur le comportement des papillons, sur l'impact de l'artificialisation de notre environnement sur la nature.
Un citoyen, comment est-ce qu'il peut faire s'il a envie d'apporter sa participation?
Alors là, on aborde deux programmes. Les deux sont pilotés ou copilotés par le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Un vaste programme s'appelle Viginature. Donc là, il suffit de chercher Viginature. Hein. Et un autre programme plus récent est piloté ou copiloté par la LPO. Donc là, il suffit de se renseigner auprès de la Ligue pour la protection des oiseaux qui mène de plus en plus d'opérations qui impliquent les citoyens et leur capacité à observer les oiseaux, notamment dans les nichoirs. qu'on constate, c'est que quand les chercheurs sollicitent cette participation, il y a du répondant. Alors, il n'y a pas autant de répondants en France qu'en Angleterre. En Angleterre, c'est extraordinaire le nombre de gens qui sont prêts à passer du temps. En France, c'est moins, mais c'est quand même très, très, très important. Et encore une fois, c'est très intéressant pour les chercheurs parce que ça leur permet d'avoir une quantité absolument considérable de données qui serait absolument incapable de recueillir s'il ne fallait compter que sur les professionnels.
Autre sujet abordé dans le dossier, c'est la biodiversité comme source de bien-être.
Oui, donc assez rapidement, il y a une recherche de plus en plus, là aussi importante, qui est menée et qui permet de comprendre que plus un environnement est riche en biodiversité, plus il a une influence sur le bien-être des gens. Ça a été montré en particulier dans une étude qu'on relate à Sheffield, en Angleterre. Sheffield a la réputation d'être une ville très ouvrière, avec peu de végétation et surtout des usines, et du goudron, du béton et peu d'espace pour la nature. Et en fait, c'est pas vrai, c'est la ville d'Angleterre où il y a le plus de parcs et de jardins. Quand on sait qu'en Angleterre, il y en a partout, donc là, il y en a particulièrement énormément. Et donc, on a enquêté auprès des promeneurs dans les parcs et on s'aperçoit que plus ils se promènent dans des parcs hétérogènes du point de vue de la végétation et du point de vue des oiseaux, plus ils ressentent une forme de bien-être, un apaisement, une capacité à prendre du recul sur leurs problèmes. C'est maintenant prouvé et on pense que c'est lié à l'hétérogénéité des paysages. Ça nous fait du bien, beaucoup plus que une pelouse tondue à ras avec des fleurs en randonnion. Ce résultat a été confirmé dans une enquête menée en Suisse par un programme qui s'appelle Biodiversity. On a demandé aux gens de choisir parmi différentes possibilités de gestion de parcs en ville. On voit là aussi qu'ils ont tendance à privilégier des parcs où l'herbe n'est pas bien tondue, il y a des fleurs un peu dans tous les coins, les arbres sont disséminés ici ou là. Donc on voit l'attrait auprès des gens des paysages hétérogènes. Alors c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il y a une convergence d'intérêts entre la sauvegarde de la biodiversité d'une part dans l'espace urbain et puis d'autre part le bien-être des gens, le fait qu'ils se sentent bien dans un tel environnement. Les villes sont capables d'accueillir toute une flore et toute une faune. On a d'autant plus intérêt à favoriser cette faune et cette flore que les citadins en profitent. Et quand on sait que maintenant on est beaucoup plus nombreux, surtout dans nos pays industrialisés, à vivre en ville qu'à la campagne, on a tout intérêt à promouvoir cette biodiversité pour elle-même d'une part, pour tous les services qu'elle rend, et parmi ces services, celui de rendre les gens plus heureux.
On établit aussi de plus en plus le lien entre biodiversité et économie. On pouvait lire récemment dans les médias que des économistes et des experts environnementaux multipliaient les études destinées à évaluer financièrement l'apport de la biodiversité et le coût de sa destruction. Aujourd'hui, on pourrait presque donner un prix à la biodiversité.
Oui, alors ce sujet apparaît très très délicat parce que la nature n'a pas de prix, elle vaut par elle-même, on ne devrait pas avoir à la valoriser monétairement. Il y a quelque chose un peu qui relève du sacrilège à vouloir faire ça. Et d'ailleurs, à ce propos, beaucoup de gens s'inquiètent, et sans doute à raison, de la conférence de Nagoya au Japon, où on va discuter de cette mise à prix finalement des écosystèmes. Alors nous, on a défendu l'idée que c'était tout de même une idée sur le fond pertinente, dans la mesure où aujourd'hui, puisque tout un tas d'écosystèmes très précieux n'ont justement aucun prix, eh bien on les détruit les uns après les autres de façon épouvantable. Or, il y a eu un rapport qui a été publié en 2005 par les Nations Unies qui montre que la nature fournit tout un tas de services. Et quand on la détruit, ces services disparaissent. Alors, il y a un cas paradigmatique, c'est les écosystèmes forestiers qui servent de source pour l'eau des habitants de New York. Les New-Yorkais ont eu le choix il y a peut-être 10 ou 20 ans entre laisser ces écosystèmes être détruits, construire des usines pour rendre l'eau potable, ou alors investir dans ces forêts pour les protéger, investir dans l'agriculture autour de ces forêts pour qu'elles soient biologiques, pour que l'eau soit la plus propre possible. Et c'est finalement ce que les New-Yorkais ont choisi pour la bonne raison que cette option était moins chère. Et le problème, c'est que ce cas, il est relativement isolé, il est très difficile de trouver d'autres exemples, mais pourtant, sur le fond, la valorisation des services écologiques nous paraît être une approche intéressante dans l'optique de la préserver, de la protéger, plutôt que de la détruire et d'investir dans des infrastructures qui sont beaucoup plus coûteuses,
bien sûr,
qui sont de toute façon incapables de fournir toute la série de services équivalents que fournissent les écosystèmes.